Je suis Mustapha Mefta, donc je suis un chercheur en physique solaire et en relations soleil-climat. Et je m'intéresse particulièrement à la problématique du réchauffement climatique. Et donc, d'un point de vue personnel, donc moi je suis né à Douai, dans le nord de la France. Puis vous verrez à l'issue de cette discussion que ben, j'ai eu quelques petites idées qui ont émergé dans mes bases au niveau du nord de la France. Voilà.
Alors, quel a été votre parcours d'étudiant?
Alors, mon parcours d'étudiant, donc comme j'ai expliqué, j'ai déjà d'abord commencé mes études dans le nord de la France, donc de la maternelle jusqu'au lycée, hein, donc à Douai. J'ai évolué avec les mêmes personnes. Ensuite, j'ai été faire mes études à Toulouse. Là, j'ai intégré une grande école d'ingénieurs dans le domaine aéronautique et spatial. Ensuite, j'ai fait un DEA à Paul Sabatier, avec des connexions avec l'Institut national des sciences appliquées de Toulouse et l'ISAE, Aéro Toulouse. Puis ensuite, bah, j'ai fait une thèse en géosciences, donc orientée études de l'atmosphère. Et puis enfin, j'ai obtenu un diplôme, une habilitation à diriger des recherches en astronomie et en astrophysique. Donc, c'est très centré vers l'étude de l'atmosphère de la Terre, l'étude des atmosphères planétaires, mais aussi l'étude des petits corps. Et c'est directement en lien avec la conquête spatiale et l'étude des satellites.
Très bien. Alors, quel a été votre parcours professionnel?
Alors, mon parcours professionnel, bon, tout d'abord, comme tout le monde, j'ai commencé par faire des petits travaux. Donc, mes parents m'ont poussé à faire des petits travaux, hein. Donc, c'est d'abord savoir, par exemple, aller travailler dans des milieux agricoles, mais aussi industriels. Ça, c'était pendant les études. Ensuite, j'ai effectué aussi mon service militaire, donc dans l'est de la France. Donc, ce sont des premières expériences professionnelles. Et puis, ben, j'ai travaillé chez Aérospatiale. Après avoir travaillé un court instant chez Aérospatiale, cela m'a permis d'avoir une solide expérience du monde industriel. Donc, j'ai été embauché au service d'aéronomie. Donc, c'est un laboratoire qui dépend du CNRS. Et puis en 2009, donc je l'expliquerai, le service d'aéronomie a fusionné avec le CETP pour former le LATMOS. Donc depuis, je suis au LATMOS, donc un laboratoire qui dépend de trois tutelles, le CNRS, l'Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines et Paris-Saclay. Et évidemment, pour nous, Paris-Saclay, c'est quelque chose de très important. Et enfin, en termes d'expérience professionnelle aussi, donc je suis enseignant, je donne des cours aussi dans le cadre du master New Space à l'Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, Paris-Saclay. Et je fais aussi des interventions à l'ISAE, SUPAERO, pour donner des retours d'expérience sur le monde spatial et ce que l'on fait aujourd'hui.
Très bien. Alors, quels sont vos domaines de recherche?
Alors, concernant les domaines de recherche, j'en ai deux, hein. Le premier, c'est je m'intéresse énormément à la problématique du réchauffement climatique. Donc, répondre à des questions clés pour pouvoir observer des variables climatiques essentielles. Donc, je vais m'intéresser notamment à l'étude du bilan radiatif de la Terre, mais aussi à l'évolution suivie des gaz à effet de serre, comme le CO2, le dioxyde de carbone, le méthane, le protoxyde d'azote. Et à un moment, comment ces éléments peuvent se connecter avec l'évolution globale de la température et le lien avec tous les flux au sommet de l'atmosphère. Un autre domaine d'intérêt pour moi, c'est donc la physique solaire. Donc, je m'intéresse à l'étude de la physique solaire, de ce corps. Donc, ça, c'est mon lien direct avec la partie astronomie, astrophysique. Et ce qui va m'intéresser, c'est étudier à un moment, par exemple, les éjections de masse coronale du Soleil, son activité, et développer des technologies qui vont permettre de détecter le plus rapidement possible les tempêtes solaires pour pouvoir prévenir à un moment d'éventuelles tempêtes géomagnétiques et des effets qu'il peut y avoir au niveau de l'environnement terrestre.
Effectivement, parce que si ma mémoire ne me fait pas défaut, il y a de nombreuses interactions possibles entre les éjections à la surface du Soleil par rapport aux satellites, notamment les satellites d'orbite basse présentes, que ce soit dans le domaine de la météo ou autres satellites qui peuvent être impactés, bien entendu.
Oui, je confirme. On peut donner un exemple, hein, en termes de météorologie spatiale. Donc, il y a un peu plus d'un an, un événement, donc une éjection de masse coronale, donc qui a généré une tempête solaire qui se transformait en tempête géomagnétique. Et au même moment, la société Starlink, justement, de notre Elon Musk, avait mis en orbite une quarantaine de satellites et ils ont été perdus. Perdu parce que l'événement était tellement important qu'ils n'ont pas été capables de pouvoir mettre à poste les différents satellites. Donc on voit un peu l'intérêt justement de pouvoir étudier cette physique et à un moment quelque part aussi d'apprendre à respecter certaines règles, c'est-à-dire de faire un suivi de l'environnement spatial et des conséquences que cela peut avoir au niveau ben, des humains, mais aussi des technologies comme j'ai déjà énoncé précédemment.
Effectivement. Alors, avez-vous eu une rencontre particulière durant votre parcours d'étudiant ou professionnel qui vous a influencé pour vous orienter sur une carrière d'excellence liée à l'astrophysique et au spatial?
Alors, comme j'expliquais, bon, moi j'ai été formé donc dans le nord de la France. Et quand j'étais en CE1, donc j'ai eu un professeur, hein, c'était dans les années, fin des années 1970, au début des années 1980, qui s'appelait Monsieur Oud. Donc, c'était un instituteur en classe de CE1. Puis, il nous a montré quelque chose de très intéressant. Déjà, un dispositif pour pouvoir visionner des films. Donc, c'était quand même quelque chose de magique à l'époque, hein. Donc, on pouvait voir un petit cinéma. Ça m'a fait penser à un film avec Philippe Noiret qui s'appelait Cinéma Paradiso. Et ensuite, ce qu'il nous a montré, c'était vraiment passionnant. Il nous a montré les premiers pas de l'homme sur la Lune. Donc, on a vu avec lui le module. Donc, qui a fait son atterrissage hein, au niveau de la Lune. On a vu les premiers pas de Neil Armstrong. Donc, c'était vraiment, vraiment émouvant pour nous, une grande surprise. Et ensuite, on avait fait un peu notre premier débat entre nous, hein, entre élèves et avec l'instituteur. Donc, je me souviens de cet événement parce que ça a eu un effet catalyseur en moi.
Bien. Alors, qu'est-ce que représente en fait le LATMOS?
Alors, le LATMOS, c'est une unité mixte de recherche donc, qui dépend de trois tutelles, donc l'Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, le CNRS, donc Centre national de recherche scientifique, et Sorbonne Université. Donc, c'est un laboratoire qui est récent, hein. Il a été créé en 2009 et il est issu de la fusion entre le service d'aéronomie et le CETP. Donc, moi, auparavant, j'étais au service d'aéronomie. Commencé ma carrière scientifique au service d'aéronomie. Et le service d'aéronomie, c'est le plus ancien laboratoire spatial français. Il a été créé en 1958. Donc déjà, à l'époque, pour étudier l'atmosphère, notamment en utilisant des sondes Véronique, hein, qui étaient donc, lancées depuis le sol algérien à Maguire. Donc, ça permet d'avoir une connexion avec notre histoire, avec notre passé, et donc c'est vraiment quelque chose d'important. Alors, que fait le LATMOS? Le LATMOS va s'intéresser évidemment à l'étude de l'atmosphère de la Terre, tout ce qui est en lien avec l'atmosphère de la Terre. On va s'intéresser aux atmosphères planétaires, mais aussi à l'étude des atmosphères planétaires et à l'étude des petits corps. Donc, l'espace, c'est quelque part une bénédiction pour ce laboratoire. Cela permet justement de pouvoir répondre à des questions scientifiques clés, qui vont donc de l'étude du climat, du réchauffement climatique, l'étude des atmosphères et les conséquences en lien avec cela, mais aussi l'étude des planètes de notre système solaire et bien plus encore.
Qu'est-ce qu'un CubeSat?
Bonjour, aujourd'hui, je vous parle des CubeSat. Les CubeSat sont de petits satellites qui orbitent autour de la Terre. Sans surprise, et comme leur nom l'indique, ils ont la forme d'un cube, d'environ 10 cm de côté, et pèsent seulement 1,5 kg. juste assez grand pour tenir dans une main et donner un accès à l'espace. Imaginé à la fin des années 90, le concept CubeSat s'est largement répandu depuis. Il est notamment utilisé par les chercheurs du LATMOS pour répondre à des questions clés scientifiques, avec notamment la mission UVSQSAT. Ce qui est pratique avec ces petits satellites, c'est qu'ils peuvent être développés rapidement. Ils se combinent les uns avec les autres comme des briques de Lego. Par deux, comme InspireSat 7, par trois, comme iSat, ou même par six, comme la future mission UVSQSAT-NG. Ce sont des outils très pratiques, car ils se construisent et se testent simplement avec des pièces faciles à trouver. Certains CubeSats nécessitent néanmoins la mise en œuvre de systèmes complexes propres aux axes de recherche développés dans les laboratoires. Toutes les faces d'un CubeSat sont généralement recouvertes de cellules solaires pour disposer de suffisamment d'énergie électrique en orbite, car ces satellites fonctionnent avec peu d'énergie. Ils disposent des mêmes fonctionnalités que les gros satellites. Ils sont équipés d'antennes pour communiquer avec les stations sol de réception des données. Ils utilisent très souvent des fréquences radioamateurs. La conception de ces satellites est donc plus accessible et permet aux étudiants, aux laboratoires de recherche français ou à des petites structures industrielles de lancer leur propre mission d'observation de la Terre et d'exploration de l'univers. Les CubeSats occupent peu d'espace. Ils sont donc souvent lancés par grappes d'une dizaine, voire d'une trentaine, et partagent parfois le lanceur avec de gros satellites commerciaux, profitant ainsi du vol. En permettant un accès à l'espace facile et peu coûteux, qui sait quelle découverte ces nouveaux explorateurs vont-ils faire, seuls ou en groupe?
UVSQSAT est le premier nanosatellite du LATMOS qui a été lancé très récemment, il y a un peu moins de 2 ans, via un lanceur Falcon 9 pour l'étude du climat. Alors, en quoi consiste plus précisément cette mission? Quelle est la durée de cette mission et quels peuvent être les impacts positifs à la suite de la récolte de données de cette mission?
Alors, UVSQSAT, c'est un satellite qui a été mis en orbite le 24 janvier 2021 depuis la Floride. Donc, c'est un petit satellite hein, dont la durée de vie initiale devait être de 1 année. Donc, vous voyez que nous sommes à plus de 2 ans. Hein. Donc, déjà, au niveau des technologies développées, c'est un grand succès. Donc, 3 objectifs hein, pour UVSQSAT. Le premier, c'est un objectif pédagogique, hein, parce qu'on cherche justement à former les jeunes vis-à-vis des technologies spatiales au travers d'applications concrètes. Nous avons des objectifs technologiques. Cela nous permet de tester de nouvelles technologies, de nouveaux dispositifs, de nouvelles charges utiles. Et enfin, pour moi, il y a aussi un objectif scientifique. Donc, l'objectif scientifique, c'est de réfléchir. L'idée, c'est de savoir comment on peut utiliser ces petits satellites pour pouvoir mettre en œuvre des constellations de satellites pour répondre à des questions clés. Et la question clé pour moi, c'est l'étude du bilan radiatif de la Terre. Il faut savoir que le bilan radiatif de la Terre, c'est le paramètre le plus important, hein. C'est encore plus important que faire un suivi de la température de la planète, parce que cela nous donne un effet direct des interactions sol-atmosphère. Donc, pour pouvoir réaliser cette observation, il nous faut justement des satellites, car ces mesures sont faites au sommet de l'atmosphère. Et ce qu'il y a d'intéressant avec les petits satellites, c'est qu'on peut envisager de les mettre en constellation. Et une des questions importantes vis-à-vis du bilan radiatif de la Terre, c'est de faire un suivi en temps réel, hein, mais aussi d'avoir une très bonne résolution spatiale. Donc la clé, hein, la question fondamentale, c'est comment on utilise ces petits satellites pour avoir une observation avec une excellente résolution spatiale, donc par exemple une dizaine ou une centaine de kilomètres, et une excellente résolution temporelle. Typiquement, avoir un passage, hein, une revisite de l'ordre de 2 à 3 heures. Et ça, c'est fondamental pour pouvoir alimenter les modèles climatiques, pour pouvoir avoir une meilleure idée de l'évolution du climat, de sa future orientation, et enfin, ce qui est fondamental, quelles solutions on va pouvoir mettre en avant pour pouvoir développer des solutions d'atténuation. Alors, qu'est-ce qu'on a réussi à faire? Ben, on a déjà atteint ces 3 objectifs, c'est-à-dire former les personnes, former les jeunes, de développer de nouvelles technologies. Je vous expliquerai après par la suite que l'on a amélioré dans notre nouveau satellite qui s'appelle Inspire-Sat 7. Et enfin, tester cela. Alors, au bout de 2 ans, on obtient bien des cartes de flux. Donc, on a un flux solaire absorbé, un flux solaire réfléchi, et enfin, un rayonnement infrarouge, hein, thermique, de la planète. Donc, on arrive bien à faire ces mesures, mais pour pouvoir aller au-delà, comme on dit, au-delà de l'état de l'art, il faut mettre en œuvre une constellation de satellites. Donc, c'est la clé, c'est l'enjeu, et c'est ce que nous essayons de mettre en place. Alors, un des paramètres clés aussi pour répondre à cette question, c'est que un laboratoire de recherche se focalise sur la mise en place de prototypes, de dispositifs complètement nouveaux. Ensuite, la mise en œuvre d'une constellation ou d'un ensemble industriel doit justement être délégué à des entreprises privées. Voilà. C'est un peu notre stratégie et ce que l'on cherche à mettre en place.
Alors, dans la même dynamique que la précédente question, vous avez aussi envoyé un deuxième satellite qui a été mis en orbite le 15 avril 2023, qui correspond plus spécifiquement à la mission Inspire-Sat 7. Alors, pouvez-vous nous en dire un peu plus?
Alors, Inspire-Sat 7, donc c'est un satellite qui a, donc, comme vous l'avez dit, été mis en orbite le 15 avril 2023. Alors là, depuis la base militaire de Vandenberg en Californie. Donc pour nous, ça a été différent parce que les process de mise en orbite ont été légèrement différents. Alors, que fait ce satellite? Bon, déjà, il va réaliser les mêmes observations que UVSQ-SAT. Donc, on va à nouveau s'intéresser au bilan radiatif de la Terre et on va avoir 2 satellites en orbite qui vont être à des heures locales différentes. Donc, nous avons sélectionné une orbite différente. Donc, cela va nous permettre d'améliorer notre compréhension vis-à-vis des observations pour pouvoir envisager quelle va être en gros la meilleure constellation de satellites pour pouvoir répondre à ce besoin. Donc, un, l'objectif d'Inspire-Sat 7, c'est consolider les mesures du VSQ-SAT et donc on a amélioré les technologies. Ce que je peux vous dire déjà, c'est que nous avons de meilleurs résultats, c'est beaucoup plus précis. Donc c'est déjà une très bonne nouvelle hein, après une quinzaine ou une vingtaine de jours en orbite. Ensuite, on va tester de nouvelles technologies. Donc on a intégré un module sans fil. Donc on s'intéresse à réduire les harnais électriques à l'intérieur des satellites. Donc, faire des tests de technologies sans fil. On va aussi tester de nouvelles technologies pour pouvoir faire des mesures de l'éclairement solaire dans l'ultraviolet, l'éclairement solaire spectral. Donc, tester de nouvelles technologies vis-à-vis des photodétecteurs. On va aussi s'intéresser à la mise en œuvre d'un nouveau module qui est développé avec l'ONERA, hein, qui est une carte qui permet de faire une étude de la ionosphère, donc une des couches de l'atmosphère. Alors c'est pareil, ce module a déjà été testé avec succès, et donc j'en profite pour féliciter mes collègues de l'ONERA, vu que cette carte électronique fonctionne, hein, et très très bien. Hein. Et puis enfin, on va aussi tester de nouvelles technologies pour faire de la communication dans l'espace. Et pour cela, donc nous travaillons avec les radioamateurs. Donc nous avons développé une carte électronique qui s'appelle Spino. Donc, moi-même, je suis radioamateur. Hein, mon nom de code, c'est F4XO. IXO, hein, donc, je fais partie de cette communauté radioamateur. Et donc, avec AMSAT francophone et l'Electrolab, une société qui s'appelle Adrelis, donc, nous avons mis en œuvre une carte électronique qui permet de faire la communication radioamateur. Et ça, c'est important parce que ça permet de tester aussi à nouveau de nouvelles technologies de communication. Donc, on est à la fois sur des objectifs qui sont donc à nouveau pédagogiques, scientifiques, mais aussi technologiques. Et un des paramètres clés pour ces différentes missions, c'est que nous faisons partie d'un regroupement qui s'appelle Inspire. Donc, c'est un réseau international qui met en avant l'éducation et la recherche et aussi la communication entre les nations vis-à-vis de la recherche scientifique.
Pour le rappeler, au niveau des radioamateurs, ils ont une expertise non négligeable en France, notamment sur tout ce qui concerne les satellites en basse orbite et plus spécifiquement les CubeSats. Ils ont des connaissances et et une expertise non négligeable à considérer, bien entendu.
Oui, je confirme, hein. Et il y a un autre paramètre qui est important, donc c'est une communauté qui est assez sympathique. Et puis surtout, ce sont des passionnés. Donc quand on travaille avec des passionnés, c'est ce qui va faire la différence. C'est-à-dire qu'à un moment, les personnes ne vont pas compter leur temps, elles ne sont pas intéressées par l'argent, parce qu'on en parlera, hein. J'ai justement écrit un livre qui parle de cette problématique en lien avec le New Space. Beaucoup de personnes s'orientent vers des activités avec des intérêts qui peuvent être économiques. Bon, on peut le comprendre, hein. Mais la conquête spatiale, elle est d'abord nourrie par la passion et par l'envie, l'envie de découverte, l'envie d'aller plus loin. Donc ça, c'est vraiment l'un des moteurs de la communauté radioamateur, mais aussi de la majorité des chercheurs, hein.
Alors, vous avez écrit un excellent livre, L'espace et le New Space au service du climat, qui résume parfaitement votre conscience de l'importance du spatial, mais aussi les différents acteurs présents, ainsi que l'utilité grandissante des divers satellites dans le domaine sur le climat, en fait. Pouvez-vous nous présenter brièvement ce travail?
Alors, oui, pour moi, l'idée, c'était de partir d'abord sur un constat d'abord et de savoir que l'enjeu fondamental du 21e siècle, c'est cette problématique du réchauffement climatique, hein. Et donc, l'idée pour moi, c'était de savoir comment on pouvait essayer d'utiliser nos forces pour pouvoir répondre justement à cette problématique et trouver des solutions. Donc, un, c'est donc observer donc ce qui se passe. Deux, comprendre, trois, agir, et enfin, évidemment, mettre en œuvre des propositions d'atténuation. Donc, l'idée, c'est bien de montrer que l'espace et les satellites peuvent répondre à cet enjeu, peuvent nous permettre d'observer l'ensemble des variables climatiques essentielles. Il y en a 52, et il faut savoir que plus de la moitié des variables climatiques essentielles ne peuvent être observées que depuis l'espace. Donc ça, c'est un constat, ce qui montre l'intérêt fondamental du spatial déjà vis-à-vis de l'observation de la Terre. Et l'autre paramètre qui est aussi important, c'est que l'on a vu émerger de nouveaux acteurs, ce que l'on appelle les acteurs du New Space. Alors, c'est un phénomène qui a commencé depuis un moment aux États-Unis. Certains sont célèbres, hein, comme Elon Musk, Jeff Bezos ou encore Richard Branson, dans un autre registre. Et moi, j'ai aussi essayé de réfléchir, en gros, à quels étaient réellement leurs objectifs, quoi. Donc, quelque part, c'est aussi une alerte vis-à-vis de leur vision de l'espace, hein, qui peut être différente de celle, des scientifiques. Et pour moi, ce qu'il y a de fondamental aussi, c'est de pouvoir maintenir une institutionnalisation par le haut. C'est-à-dire que, c'est l'institution, à un moment, qui doit orienter les choix, vis-à-vis de la stratégie d'observation. Et pas d'une certaine manière l'industrie ou le monde privé, parce qu'à un moment, il peut y avoir des conflits d'intérêts. Donc, si on regarde de près, et c'est ce que j'explique dans le livre, on voit clairement que la vision des acteurs majeurs du New Space, bon, elle est quand même orientée conquête spatiale, ça peut se comprendre, hein. Par exemple, si je prends l'exemple de Elon Musk, il a été marqué par les livres d'Asimov, notamment Fondation. Donc, oui, c'est un passionné de l'espace. Par contre, sa vision, elle peut être dangereuse, hein. Donc, nous, on s'interroge à savoir si vraiment on n'a plus d'autres solutions. Oui, il faut tout faire pour essayer de trouver une solution pour se diriger vers Mars. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de plan B, hein. La priorité, c'est la planète, c'est le plan A. Alors, pareil, dans un autre registre, quand on regarde de plus près ce qui est expliqué par Jeff Bezos. Lui, il a aussi été formé à Princeton. Donc, à un moment, un de ses enseignants a écrit un livre justement sur l'utilisation de l'espace et ses grosses stations spatiales, où il est expliqué que sera intéressant de mettre donc les humains dans des grosses stations spatiales. Et ce qui est dit, hein, qui est quand même inquiétant aussi, c'est que la Terre deviendrait un grand parc national comme le Yellowstone. Alors, je vois en arrière-plan, vous avez le pont de San Francisco. Alors, juste derrière, il y a aussi un parc national. Donc, c'est inquiétant quand même d'entendre des personnes qui disent, on va vivre dans l'espace et puis on viendra sur la planète Terre comme dans un parc national. Donc, c'est une interrogation, hein, un questionnement par rapport à ce qui est mis en place et enfin aussi une interrogation par rapport aux acteurs actuels du New Space. même en France, par rapport à leur volonté de mettre en place une nouvelle conquête spatiale. Donc voilà, vous comprenez que nous, on est plus orienté vers un spatial qui permet de répondre à des questions et à des enjeux fondamentaux, plutôt que d'imaginer de faire n'importe quoi dans l'espace, d'avoir un Far West dans l'espace. Et ça, c'est inquiétant. Donc j'ai poussé ces différents axes. Et ensuite, j'ai essayé, dans le livre, d'expliquer pourquoi c'est important de mettre en place ces constellations de satellites et comment justement l'industrie peut aider la recherche française, peut aider l'État, peut aider l'Europe, hein, parce que, il y a de gros enjeux au niveau européen actuellement, hein, notamment au niveau de la souveraineté, hein. Vous savez qu'on est en difficulté vis-à-vis des lanceurs. Bon, j'ai espoir parce que des solutions normalement vont être trouvées parce que c'est fondamental d'avoir une autonomie stratégique. Et dans le livre, justement, j'explique très bien l'historique de la conquête spatiale et les difficultés qui ont déjà été rencontrées par l'Europe, notamment avec la mise en orbite des lanceurs Europa à la fin des années 1970, avec les difficultés pour pouvoir développer un lanceur, hein, notamment liés à des problèmes de millefeuille institutionnel. Mais au final, l'Agence spatiale européenne a été créée, c'est ce qui a permis justement de développer le lanceur Ariane. Donc j'ai espoir parce que de par le passé, on a vu que des solutions étaient possibles. Donc c'est un peu ce qui est expliqué dans le livre. Et enfin, je terminerai par un autre paramètre qui est clé, c'est la prise de risque. La prise de risque, c'est quelque chose de fondamental. Donc, à un moment, il faut que des personnes, des visionnaires, puissent développer leur stratégie et il faut les laisser prendre des risques. Et on sait clairement, c'est clairement qu'à un moment, les personnes qui vont prendre des risques, ben, à un moment, elles vont avoir des échecs. Alors, est-ce qu'on peut parler d'échecs? Moi, j'aurais tendance à vous dire uniquement que ce sont des apprentissages. Il faut transformer l'échec en apprentissage et avoir un retour d'expérience. Donc on l'a vu, hein, que ce soit les très grands acteurs actuels du New Space et du spatial, bon, à un moment, le fait d'avoir un lanceur qui ne fonctionne pas du premier coup, quelque part, c'est normal. On est en train d'apprendre et ça, c'est fondamental. Donc c'est justement ce qu'on met en place au travers de nos petits satellites, comment les mettre en orbite rapidement, parce qu'une autre question fondamentale aussi que l'on a vue au niveau de notre entourage, c'est qu'il faut donner du sens. On a traversé et on traverse plusieurs crises de suite. On a eu la crise du Covid. Nous avons les guerres actuelles en Ukraine. Il y a beaucoup de guerres un peu partout dans le monde. Donc, on est dans des situations qui sont très compliquées actuellement. Et
Délicate.
donc, c'est très délicat et ça, c'est important parce que ça permet aussi de montrer aux jeunes et à beaucoup de monde que part, on a besoin d'espoir, on a besoin de montrer qu'on est capable de le faire nous-mêmes. Et donc, ce que j'explique notamment dans le livre aussi, c'est la volonté d'avoir à un moment une autonomie dans le développement des activités et de pousser tout ce qui peut être fait au niveau local. Hein. Donc, l'avenir, c'est évidemment le local, hein, c'est consommer local, c'est essayer de développer le plus de choses au niveau local. Et ça, c'est un des points fondamentaux qui me permet de converger vers un des derniers pans du livre, justement, c'est d'expliquer comment on fait pour répondre à deux besoins scientifiques hein, qui font partie de mes thématiques de recherche. Un, répondre aux questions d'observation et de suivi des variables climatiques essentielles en utilisant ces satellites en orbite basse. Et deux, de développer une autre petite constellation de satellites qui peuvent être sur des orbites géostationnaires ou au niveau du point de Lagrange, par exemple, pour pouvoir observer les colères du Soleil. Parce que nous sommes dans un monde qui est hyper technologique, qui est fragile, et à un moment, la nature, qu'on le veuille ou non, est plus forte que nous. Donc, on doit à un moment rester humble devant l'espace. C'est quelque chose qui est colossal. Donc, c'est pour ça qu'en conclusion justement de livre, j'explique que l'espace est un sanctuaire sacré à préserver. C'est quelque chose d'important à préserver et il y a des règles à respecter. Et les règles à respecter, c'est qu'à un moment, ben, il y a des traités normalement, hein, des traités de l'espace qui ont été mis en place. Alors, il faut savoir qu'il y en a six. Le dernier qui a été mis en place, c'est en 1979 et depuis, nous n'avons pas progressé. Donc aujourd'hui, c'est primordial de pousser les États à mettre en œuvre une discussion pour pouvoir respecter l'espace, le considérer comme un sanctuaire sacré à préserver. Et ce n'est pas une nouvelle ère de jeu Et pourtant, c'est ce qui est en train de se mettre en place, hein. Que ce soit au niveau militaire ou au niveau commercial. On peut aussi s'interroger, par exemple, sur la mise en orbite d'une multitude de satellites des constellations Starlink, mais aussi Guowang du côté chinois. C'est très inquiétant, parce que l'espace, à un moment, peut être congestionné. C'est un peu tout ce que j'essaye d'expliquer dans le livre. C'est une forme d'orientation scientifique. Et enfin, une interrogation sur est-ce que c'est raisonnable ce que l'on fait? Et puis je terminerai juste par cette phrase pour dire est-ce que c'est éthique et moral? Où est l'éthique et où est la morale? Voilà.
Important, effectivement. Alors, dans vos domaines de spécialité, quels sont les défis à court et à moyen terme?
Alors. Les défis, si je commence d'abord par l'étude du climat et l'observation de la Terre, ce qui serait très important, c'est d'arriver à avoir des observations en temps quasi réel de notre planète. Donc, si vous prenez un exemple, hein, vous avez l'atmosphère. Si on arrive à avoir une vision du profil vertical de l'atmosphère avec, par exemple, 80 pas de résolution, entre 0 et 100 km d'altitude, et ensuite d'avoir des mesures à différents points de la planète avec une excellente résolution spatiale, ça ce serait fondamental pour pouvoir faire un pas en avant au niveau de la qualité des modèles climatiques. Voilà. Alors, ça c'est directement lié justement à l'observation avec les satellites, donc utiliser l'espace pour pouvoir observer la Terre et quelque part nous préserver et nous protéger. Hein. Donc ça, c'est en lien avec la partie climatique et vis-à-vis de la physique solaire ou de la météorologie de l'espace. Ce qui est important, c'est d'arriver à détecter le plus rapidement les éjections de masse coronale, parce que plus on va détecter ces éjections de masse coronale, et notamment à leur naissance, et ben on va pouvoir être capable d'anticiper une tempête solaire et savoir si elle est géoeffective. Alors, géoeffective, ça veut dire qu'elle va se diriger vers la Terre, avoir des conséquences. Il y a un événement à la fin du XVIIIe siècle qui s'appelle l'événement Carrington. C'est justement une méga grosse tempête solaire qui s'est dirigée vers la Terre et qui a eu des conséquences dramatiques. Alors à l'époque, il y avait des télégraphes, hein, donc les conséquences étaient moindres. Mais si aujourd'hui on avait un événement de ce type, ça pourrait avoir des conséquences dramatiques. Donc tout l'enjeu, c'est de savoir aussi observer donc l'espace pour pouvoir éviter ou anticiper des catastrophes qui sont, elles, naturelles, issues de l'environnement naturel de l'espace.
Alors, que conseillez-vous aux jeunes filles et aux jeunes garçons intéressés par les sciences en général, et l'astrophysique et le spatial en particulier?
Alors, ce qu'on peut leur conseiller déjà, c'est déjà d'aller lire quelques livres. Hein. Il y a quelques livres qui sont intéressants. Hein. On peut regarder par exemple les livres Fondation d'Asimov. Moi, étant jeune, j'avais lu à un moment Chronique martienne de Ray Bradbury. Ça m'avait passionné. Vous avez une multitude de livres hein, et de films. Donc, ça, c'est déjà une des choses. Et ensuite, pour leurs études, c'est d'avoir une bonne maîtrise des matières scientifiques, les mathématiques, la physique, mais pas que, et aussi les langues. Les langues. Par exemple, l'anglais. Donc ça, c'est la partie éducation. Mais le plus important pour eux, c'est la passion. C'est la passion et l'envie. Donc à partir du moment où une personne est passionnée et a l'envie de travailler dans ce domaine, il faut qu'elle persévère et elle va finir par y arriver. Parce que ce qu'il y a de très important aujourd'hui pour nous, c'est de pouvoir attirer vers nous des personnes qui sont donc passionnées, mais aussi des visionnaires. Parce que la conquête spatiale, bon, évidemment, a pris une nouvelle tournure ces dernières années avec l'émergence du New Space et les conséquences que cela peut avoir au niveau positif comme négatif. Mais ce qu'il y a de fondamental, c'est d'avoir des personnes qui sont optimistes et passionnées. Donc, oui, si des jeunes sont intéressés par la conquête spatiale, bon ben c'est quelque chose de positif. Alors, concernant maintenant la partie astronomie, astrophysique et la physique, et les sciences un peu plus, bon, quelque part, c'est un peu moins direct, c'est plus complexe potentiellement à comprendre, mais c'est pourtant fondamental. Parce que très souvent, beaucoup de personnes vont nous demander, mais à quoi ça sert? Bon ben, il faut savoir déjà que l'exploration de l'univers est Au-delà de l'espace, hein, plus c'est très important parce que ça nous permet de comprendre nos origines, de savoir d'où l'on vient. Et donc, c'est fondamental. Donc, cette quête de recherche fait partie de la vie. Je pourrais vous donner aussi de multiples exemples depuis les débuts de l'homme, hein. On a vu depuis les débuts de l'humanité que l'homme en permanence a essayé de découvrir de nouveaux mondes et de s'échapper, hein. Alors, vous avez la mythologie grecque avec Icare et Dédale, hein, mais aussi vous pouvez regarder l'aventure d'Ibn al-Farinas, hein, qui est un berbère qui vivait en Andalousie aux alentours de l'an 800, qui a fait une expérience du vol. Hein, en s'équipant de plumes d'oiseaux, hein, il s'est élevé d'un minaret depuis Cordoue, et puis bon, il a volé sur une certaine distance. Alors, c'est attesté, mais il a oublié une chose, c'est l'atterrissage. C'est ce qui montre encore une fois l'exemple de l'intérêt du retour par l'expérience. Hein. Donc, à l'atterrissage, il s'est fait très mal au dos et il a compris que l'oiseau, il avait une queue qui lui permettait d'atterrir. Alors, après, on a vu l'envol des frères Wright. Et puis pour moi, bon, ce qui est passionnant, c'est le premier homme dans l'espace, donc Youri Gagarine, qui est un soviétique, et les premiers pas de l'homme sur la Lune. Donc c'est ce qui doit être montré aux jeunes pour leur montrer cette envie, cette volonté justement d'aller au-delà et quelque part, bon, le courage qu'il faut aussi pour y arriver. Donc ces différents personnages ont pris des risques, hein, voilà. Donc c'est un petit message que j'envoie et dire. Et le dernier point, c'est leur dire que les technologies spatiales, finalement, c'est simple. Ce qui est important, ce n'est pas forcément d'avoir une grosse maîtrise des outils mathématiques, mais de la compréhension et du sens. Ce qui est important, c'est vraiment de comprendre les choses et de leur donner un sens physique, un sens réel.
Pour terminer, pour finir, les associations scientifiques et techniques sont-elles pour vous une nécessité au sein de notre société et surtout pourquoi?
Alors, ces associations, oui, elles sont fondamentales parce que moi, je pense que déjà, c'est ce qui va permettre de faire le lien donc, de notre côté entre le monde de la recherche et le grand public. Donc, les associations, notamment à vocation scientifique, elles vont à un moment faciliter la vulgarisation scientifique. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Elles vont aussi permettre d'avoir d'autres moyens de communication. Pour pouvoir cibler d'autres personnes. Donc ça, c'est fondamental parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une période, comme j'ai déjà expliqué, assez particulière. Il y a un besoin de rupture, de renouveau. Typiquement, les organisations spatiales et l'espace doivent être représentatifs de la société civile. On peut aussi s'interroger sur la représentativité des entités et des organismes spatiaux vis-à-vis de la société civile. Et donc, toutes les associations, justement, hein, elles vont permettre à un moment aussi de laisser parler différentes personnes qui vont donner différents points de vue. Et ça, c'est ce qui va à un moment faire avancer le débat. Donc, on n'est pas forcément d'accord sur tout, mais on est quand même dans un pays libre et démocratique. Et tout l'enjeu et tout l'intérêt, c'est que les gens puissent s'exprimer. Et à un moment, évidemment, si on commet une erreur, bon, ben on doit l'admettre, hein, et rester modeste et dire, voilà, j'avais cru ou compris cela à un moment, et puis peut-être que j'avais fait fausse route. Voilà, c'est ça, et c'est tout l'intérêt justement de ces associations, c'est d'avoir un son de cloche indépendant qui permet à un moment d'envoyer un signal vers, pour moi, vers le grand public. Alors, les associations peuvent aussi aider là, à envisager ou à imaginer la suite, et notamment, bon, je parle de conquête spatiale. Hein, vous voyez, on a plusieurs spationautes français. Ce qui serait intéressant aussi dans l'avenir, c'est d'imaginer ou d'envisager qu'un Français, notamment qui soit né en Guyane, puisse être la prochaine personne qui puisse aller dans l'espace. Et ça, ce serait un petit clin d'œil à l'histoire, parce que bon, si vous regardez un peu l'histoire de la conquête spatiale, initialement, les bases de tir étaient en Algérie. Il y avait plusieurs noms, hein. Ça avait des noms de personnes, hein. Ça pouvait être, par exemple, il y avait un des sites qui pouvait s'appeler Béatrice. Et ensuite, pour des raisons évidemment historiques, cela s'est déplacé vers la Guyane. On appelle le centre spatial guyanais, le CSG. Ce serait intéressant, au regard de l'histoire, que dans les 5 ou 10 années qui viennent, qu'une personne soit sélectionnée, soit issue de la Guyane française. Pour moi, ce serait une bonne chose.